Chapitre 13. Claude ne ferma pas l'œil cette nuit-là. La froideur hostile qu'Olive lui avait témoignée lui semblait inexplicable, bien que leur précédent entretien se fût terminé par un mot désobligeant et qu'ils se fussent quittés mécontents l'un de l'autre. Il se rappela l'intérêt constant, mêlé d'une singulière impatience, avec lequel Olive avait suivi ses longues démarches. Les moindres paroles, les gestes mêmes de la jeune fille, étaient gravés dans l'esprit de Claude, qui essayait de les rassembler et d'en tirer des conclusions. « Pauvre petite, elle est lasse d'attendre. Mes projets lui semblent chimériques. Quant à ma prise d'armes contre ce pauvre férol, elle n'avait pas le sens commun. Olive a pitié de lui. Quand il s'embrouille, elle lui tend la perche de sauvetage, voilà tout. Mais il est capable de s'imaginer... Il faut que je parle à Olive aussitôt que je verrai poindre la chance d'un tête-à-tête. » Le matin venu, comme il allait descendre, il entendit la voix d'Olive dans l'escalier. « Je vais arroser vos plantes, Miss Picknell. Nous avons encore 10 minutes avant le déjeuner. » Construite en retrait et s'ouvrant sur le palier du premier étage, se trouvait une petite serre de 6 pieds carrés au plus, pleine de fougères et d'autres plantes vertes. En été, une vigne florissante la tapissait tout entière et portait même de fort belles grappes. En hiver, son tronc noueux et sec, avec ses longues branches tortueuses, dessinait en noir sur le vitrage des entrelacements compliqués. Quelques géraniums fleuris et des bégonias aux grappes roses égayaient la verdure uniforme des fougères qu'Olive avait plantées de ses propres mains dans la rocaille et qu'elle soignait avec beaucoup de sollicitude. Cette petite serre modeste avait une grande place dans ses affections. Elle représentait pour Olive le luxe des fleurs, la poésie de l'existence et la fraîcheur de ce coin rustique de ses rêves qu'elle appelait son cottage en Espagne et où elle souhaitait de cacher sa vie. L'arrosoir à la main, penché sur une touffe de saxifrage qui allait fleurir, Olive méditait profondément. C'était peut-être à Claude qu'elle songeait, car elle tressaillit en le voyant tout à coup près d'elle, et son visage se couvrit de rougeur. « Il faut que je vous parle, » dit-il sans autre préambule. « Nous n'avons que quelques minutes. »« Tant mieux, » pensa-t-elle, « car notre causerie manquera de charme. » « Hier, dit Claude, j'ai remporté mon premier succès. » Les yeux d'Olive exprimèrent plus d'étonnement que de plaisir à cette nouvelle. Elle ne fit aucune question. « La réussite de mes projets vous est donc bien indifférente ?» demanda le jeune homme, peiné de ce silence. « Mais non, je suis toujours charmée, pour vous, des bonheurs qui vous arrivent. » Elle parlait du ton le plus calme et accentua légèrement ce « pour vous ». Cependant, son cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. Dans l'attente de la grande nouvelle, elle hésitait à brûler ses vaisseaux. « Je vous écoute, » dit-elle enfin, voyant qu'il ne se décidait pas à commencer. Claude la regardait, si frêle, si mignonne, et pourtant si inaccessible, derrière le rempart de froideur dont elle savait s'entourer. Si près de lui, et pourtant si loin, que pour la première fois, il désespéra. « Ce que j'ai fait, » dit-il une voix altérée, « je l'ai fait pour vous, Olive. J'ai débuté, d'une façon irrégulière, humiliante peut-être, mais le premier pas est fait. Il est difficile d'expliquer cela en Sylle Noble, » poursuivit-il avec un sourire un peu amer. « J'ai tout simplement abandonné une de mes compositions à un fabricant d'appareils électriques qui en fera un prospectus. Cela sonne mal, n'est-ce pas? Mais je serai lancé, Olive. » « Quelque chose me dit que le reste viendra de soi. Ma valse est jolie, vous voyez que j'apprends à faire ma propre réclame. Dans 3 jours, chacun la jouera et l'on s'enquerra du compositeur. La voie est ouverte. « Eh bien, Olive, vous ne parlez pas? Dites-moi ce que vous pensez de mon coup d'état. » « Votre coup d'état est un coup de tête, » répondit-elle froidement. « C'est excentrique ce que vous avez fait là. » « Je n'aime pas ce qui est excentrique. » Elle se sentait à la fois déçue et étrangement soulagée. Déçue, car elle avait espéré un instant quelque merveilleux retour de fortune pour Claude, vers qui son penchant l'entraînait malgré elle. Soulagée, car elle pouvait maintenant suivre sans regret la route qu'elle s'était choisie et qui l'éloignait du jeune artiste pauvre. Sans lui accorder un regard, elle se leva, secoua légèrement le bord de sa robe et allait sortir, lorsque Claude lui barra le passage. La jeune fille vit que le moment qu'elle redoutait, le moment décisif, était arrivé. « Miss Beaumaris, dit Claude avec tant d'effort que sa voix en devint presque dure. « Peut-être m'avez-vous trouvé trop peu explicite jusqu'ici. J'hésitais à vous demander de partager avec moi la mauvaise fortune. Mais aujourd'hui, il faut que toute inquiétude cesse. Voulez-vous être ma femme, Olive ?»« Non, répondit-elle sans la moindre hésitation. » Lui jeter un dernier regard, puis s'éloigner sans tourner la tête, eût été sans doute un beau mouvement, fort tragique et fort digne, mais dans la vie réelle, où rien ne semble concluant, où l'irrégulier est la règle, où tout se brise sans cesse pour se renouer l'instant d'après, aucun jugement ne paraît sans appel. Claude resta pour en appeler. Ils étaient debout en face l'un de l'autre, lui pâle, rempli d'une douleur impétueuse, qui cherchait à se contenir, elle, tranquille et froide, les joues doucement rosées, s'accoudant sur une jardinière, dans une attitude parfaitement naturelle, plus jolie que jamais au milieu de ce cadre de verdure. Était-il bien possible que là, sans déchirement extérieur, sans éclat, par un mot banal qu'on emploie chaque jour, tout fût rompu entre eux ? « Olive !» s'écria le jeune homme d'un ton presque menaçant. « Ne vous jouez pas de moi !» Elle se rapprocha de la porte. « Non, non, écoutez-moi. Si c'est une épreuve que vous me faites subir, Olive, ou si c'est un jeu, ne le prolongez pas, il est cruel. »« Vous êtes difficile à persuader, » dit Olive froidement. « Si vous n'acceptez pas comme réponse un non catégorique, je ne sais quel autre terme employer pour vous convaincre de mes intentions. » Elle allait sortir d'un air très digne quand elle se retourna tout à coup. « Vous m'avez persécuté, dit-elle, au point que je ne savais plus moi-même ce que je désirais, ni de quel côté je devais me tourner. Vous avez tout fait pour m'influencer au lieu de me laisser librement choisir ce qui m'était le plus avantageux. À mesure que le temps passait, je me sentais liée, mais j'ai fait un effort, je me suis dégagée, je suis libre. » Claude était devenu très pâle. Il s'inclina devant Olive en lui ouvrant la porte toute grande. « Vous êtes libre, en effet, » dit-il en affermissant sa voix. « Croyez bien que je ne chercherai plus à vous influencer. » Puis il remonta chez lui, prit son chapeau et sortit. Il se sentait incapable d'endurer le premier assaut de la douleur dans le silence de sa chambre. Il lui fallait le tumulte de la rue. Il voulait noyer sa peine dans le grand courant collectif qui emporte chaque jour tant de soucis, de crève-cœur, d'indignation, de soupirs d'angoisse ou de repentir. Il se mit à marcher au hasard dans les rues les plus bruyantes, cherchant à distraire ses yeux, tenant à distance, par un énergique effort, la troupe assaillante de ses pensées. Il voulait se fatiguer d'abord, s'engourdir comme pour une douloureuse opération, et puis laisser le déchirement se faire. Il cherchait à fixer son esprit sur mille choses banales, il s'arrêtait aux devantures, il suivait des yeux les passants. Oxford Street lui sembla morne à cette heure matinale, il se dirigea vers la cité, s'enfonçant dans des ruelles à lui inconnues et mettant toute son application d'esprit à ne pas s'égarer. Il arriva dans une rue voisine de la Tamise où l'on déchargeait la marée. Le trottoir était fort étroit, menacé par les chaînes des cabestans qui pendaient aux fenêtres de chaque entrepôt et par les évolutions aériennes des grues qui allongeaient leur cou au-dessus de la tête des passants, saisissaient dans la rue les lourdes corbeilles de poissons et les emportaient dans leurs longs becs de fer, leur faisant décrire une courbe immense. Au lieu de suivre lentement le trottoir encombré, Claude se mit à marcher au milieu de la rue, manœuvrant avec peine entre les roues des camions et la tête des chevaux. Les mariniers, dégoûtants de l'eau de mer qui pleuvait de leurs corbeilles, la nuque et les épaules abritées par le long bavolet de cuir de leur chapeau, grommelaient en coudoyant le gentleman qui se fourvoyait au milieu d'eux à cette heure indue. Claude n'avait pas le loisir d'y prendre garde, les difficultés de la marche dans ce fouillis houleux de gens, de colis et de chevaux l'absorbaient entièrement, c'est ce qu'il avait cherché. La rue était longue, elle suivait la Tamise jusqu'au dock. Avant d'en avoir atteint l'extrémité, Claude, qui n'avait rien mangé depuis la veille, se sentit rompu de fatigue. Il sauta dans un omnibus sans même en demander la destination, s'enfonça dans le coin le plus reculé et, incapable de tenir plus longtemps son chagrin en échec, le laissa fondre sur lui. Il était accablé de corps et d'esprit, indifférent à tout, sauf à sa perte. Il songeait vaguement à sa tâche quotidienne qui l'attendait, mais qu'importait après tout? À quoi bon renouer la chaîne de la vie ordinaire, puisque l'anneau le plus précieux était brisé? Entre hier et aujourd'hui, il y avait une catastrophe. Mille espérances, mille projets avaient cru autour d'Olive, comme des plantes vivaces, mais elle avait tout arraché. Claude regardait passer devant lui ses grandes ambitions de la veille, il les congédiait d'un geste. À quoi bon désormais? Cependant, l'indignation grondait en même temps que le chagrin. Claude sentait avec amertume qu'il avait prodigué en vain le meilleur de lui-même. Olive était sèche et froide, incapable d'aimer. Son naïf égoïsme s'était révélé tout à coup dans le reproche qu'elle avait fait à Claude de l'empêcher de choisir librement le parti le plus avantageux. Le jeune homme se répétait avec un sourire plein d'ironie qu'Olive l'avait pesé et trouvé trop léger. S'il avait pu jeter dans la balance quelques titres de la Banque d'Angleterre, le plateau aurait penché de son côté. Avec cette douce figure, avec ce sourire timide et séduisant, ses manières pleines de charme, avec ses yeux limpides qui vous rendaient honteux de toute pensée basse, Olive était donc vénale. Toutes les femmes l'étaient donc, depuis cette Minnie d'autrefois pour laquelle il vidait sa bourse, jusqu'à sa voisine d'omnibus qui se querellait avec le conducteur pour un misérable penny. Il se détourna avec impatience de ce bruyant débat, puis, voyant les arbres de Hyde Park poindre au bout de la rue, il se hâta de descendre. Les allées, quoique peu fréquentées à cette heure du jour, l'étaient encore trop pour son besoin de solitude. Il enjamba une barrière, traversa une grande pelouse, verte encore malgré la saison, et se jeta sur un banc au pied d'un gros chêne dépouillé de son feuillage. La tête dans ses mains, il resta longtemps immobile, cherchant à prendre une résolution. Rien de ce qui avait été ne pouvait plus être. Le soin de sa propre dignité, aussi bien que les égards dus à Olive, lui prescrivait de quitter au plus vite la pension de Miss Picknell. Ce fut la première idée nette qui se présenta à son esprit. Dans l'écroulement de tout ce qui lui avait été cher et familier, Claude saisit avec une sorte de soulagement cette nécessité positive et prochaine qui le contraindrait à sortir de son abattement. Oui, c'était bien ce qu'il lui fallait, chercher un autre logis, s'enquérir, débattre les conditions, faire de cela une grosse affaire pour oublier, s'il le pouvait, la petite chambre qu'il avait peuplée de ses rêves. Résolu à lutter contre son chagrin, il essayait déjà de l'écarter de sa pensée, mais au-dessus de sa tête, les branches sèches bruissaient en murmurant le nom d'Olive. « Il n'y a de repos nulle part » s'écria-t-il en se levant brusquement. La tête lui tourna, il dut entourer de son bras le tronc du chêne et fermer les yeux un instant. Ce vertige passa néanmoins assez vite. Claude sortit du parc et se dirigea vers une crèmerie où il demanda un verre de lait et un petit pain. Il se sentait brisé. La crèmerie, avec ses dalles et ses revêtements de faïence, lui parut glaciale. Il frissonna et s'éloigna au plus vite. Mais, à chaque pas qu'il rapprochait de Beaumont Street, il avait le cœur plus serré. Il ne s'indignait plus, il ne cherchait plus à analyser sa peine, il la sentait, c'était tout. En entrant dans la maison, il entendit la voix d'Olive. Sans doute, elle racontait à Miss Picknell comment elle avait su se défaire d'un prétendant importun. Claude se hâta de gagner sa chambre, ferma la porte à double tour, se jeta sur une chaise et, vaincu enfin par la douleur, sanglota comme un enfant.